Bonjour à tous. J'ai l'honneur et je suis très heureux de pouvoir apporter le message d'aujourd'hui en étant le premier orateur ici dans cette salle. Voilà, ça change. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapproché, cosy. Voilà, c'est le mot. On est plus entre nous et je trouve ça génial en fait de pouvoir commencer cette nouvelle série de cultes en fait dans ce lieu. Voilà. Mais avant de poursuivre, je vais prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné cette église, Seigneur, et tu nous as aussi donné une pièce supplémentaire dans laquelle pouvoir faire ce culte. Et nous te louons, nous te remercions parce que il y a de cela encore quelques semaines, Seigneur, ici c'était pas très aménagé, mais merci parce que avec l'aide des frères et des sœurs, Seigneur, nous avons pu faire au mieux pour pouvoir avoir un culte le plus accessible possible à tous, Seigneur. Et nous te prions pour que nous puissions, à travers ce culte aujourd'hui, te rendre encore gloire, Seigneur. Et je te prie aussi pour ce passage d'1 Timothée 3, avec ces 16 versets, Seigneur. Je te prie pour que toutes les personnes qui sont ici présentes, quand elles vont repartir, Seigneur, de ressortir, non pas juste avec une connaissance supplémentaire sur les anciens, sur les diacres, mais surtout en étant impactés dans leur vie, en étant encouragés, édifiés pour pouvoir appliquer tout ce que nous allons voir par la suite. Et Seigneur, je te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est un ancien? Qu'est-ce que c'est un diacre? Quelle est la différence qu'il peut y avoir entre les deux? Et du coup, c'est quoi le lien avec un pasteur? Je ne sais pas si c'est des questions que vous êtes déjà posées au moins une fois dans votre vie. Si c'est le cas, vous pouvez juste lever la main, que je sache si au moins vous êtes déjà au moins posé cette fois cette question. Okay. Je pense qu'on s'est tous posé cette question, moi y compris. Et c'est un peu le but de ce message, c'est que je vais essayer de vous aider. En tout cas, le texte va nous aider à y voir plus clair. C'est ce que j'espère. Mais avant ça, on va voir déjà où se situe notre passage. Paul, en fait, écrit à Timothée cette première lettre, avant de le rejoindre ensuite à Éphèse. Et Paul considère Timothée comme son fils spirituel. Et rappelez-vous, dans Actes 16, il le rencontre. Il y a un bon témoignage des gens autour de lui. Et c'était à Lystre. Donc il le rencontre, il le fait circoncire. Et après, à ce moment-là, deuxième voyage missionnaire, Paul le prend avec lui. Et là, il lui écrit en fait cette lettre pour l'encourager et pour l'édifier, pour le fortifier. Et le thème principal de cette lettre, c'est ramener l'ordre dans l'église locale. Donc on a vu déjà le premier chapitre, on a vu les mises en garde contre les fausses doctrines, on a vu que Dieu était un Dieu qui aime sauver les hommes, et on a vu dans le deuxième chapitre que Paul encourage l'église à être unie à travers la prière, prier pour les autorités, c'est-à-dire les dirigeants des villes et les provinces, prier pour être en paix. Et ensuite on a vu avec Pasteur Dixon la situation des femmes, habillage avec pudeur et simplicité, soumission à l'instruction et ne pas enseigner et dominer sur l'homme. Et déjà, avant d'aller beaucoup plus loin dans le texte, il me faut aborder la question des anciens, en fait, au sujet des anciens. Donc, les lettres de 1 Timothée et de Tite, ce sont les seules lettres qui parlent en fait des rôles des responsables d'église, des anciens. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, et c'est là qu'on va essayer de répondre à la question « Quelle est la différence avec un pasteur ?» il y a des dons, des hommes avec des dons particuliers. Donc si vous ouvrez Éphésiens 4, versets 11 à 12, vous voyez que Dieu a donné pour l'édification de son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Et donc on va essayer de voir quelle est la différence. En fait, être ancien ou diacre, c'est une fonction qui est exercée au sein de l'Église locale. Ces personnes-là sont sélectionnés, choisis pour faire partie des responsables de l'église locale, soit en tant qu'ancien, soit en tant que diacre. Par rapport aux autres dons, les hommes qui ont des dons particuliers, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers, les enseignants, ces personnes-là sont des personnes qui ont reçu un don particulier qui peut être utile à l'église universelle. Par exemple, si ici nous avons un enseignant, il peut enseigner ici, mais il peut aussi très bien enseigner dans d'autres églises ou même dans une faculté de théologie. Et de la même manière qu'un évangéliste ne sera pas forcément l'ancien dans son église locale. Finalement, ce n'est pas parce qu'on est ancien que forcément on va être enseignant, et ce n'est pas parce qu'on est évangéliste qu'on va forcément être diacre, même si les deux sont possibles. Donc j'espère que c'était assez clair cette distinction. On peut être ancien et on n'est pas forcément apôtre ou berger. Voilà. Donc maintenant, on va voir aujourd'hui, dans le passage de 1 Timothée 3, quels sont les critères pour être ancien et diacre. Donc je propose un découpage en deux parties. Première partie, c'est les anciens et les diacres au service de l'ordre. C'est comme ça que je l'ai intitulé, verset 1 au verset 13. Et deuxième partie, le mystère de la piété qui a amené l'ordre, c'est l'incarnation. Voilà. Donc verset 14 au verset 16. Donc les anciens et les diacres au service de l'ordre. Déjà, pour ne pas avoir le texte verset par verset, parce que je pense que ça peut prendre énormément de temps, j'ai fait un tableau pour comparer rapidement les qualités requises. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour être ancien ou pour être diacre? Donc on voit que l'ancien, il doit être irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, non buveur ni violent, doux, pacifique et désintéressé. Il doit bien diriger sa maison, il tient ses enfants de la soumission et un entier respect, il n'est pas un nouveau converti, il a un bon témoignage auprès des non-chrétiens. Donc ça, c'est l'ancien. Le diacre est appelé à être respectable, être honnête. Il n'a qu'une parole, il ne fait pas preuve de duplicité, il ne s'adonne pas à la boisson, il n'est pas attiré par le gain, il garde le mystère de la foi avec une conscience pure. Il est mis à l'épreuve pour évaluer s'il est sans reproche, pour exercer le ministère. Il est fidèle à sa femme, il dirige bien ses enfants et sa propre maison. Et quant aux femmes diacres, et on va en venir, elles sont appelées à être respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. Et à travers ce tableau, nous constatons quelque chose de particulier, c'est quelle est la différence qu'il peut y avoir entre un ancien et un diacre, selon vous. L'enseignement. En fait, l'enseignement, quand on regarde, c'est la seule compétence qui est demandée à l'ancien qui est en rapport avec les dons et les capacités spirituelles. Quelqu'un qui peut être sobre, ce n'est pas forcément lié à un don qu'il a reçu. Quelqu'un qui réfléchit, ça peut être dans son caractère. Mais l'enseignement, on a vu que c'était lié à un don de l'Église universelle. Aussi, l'enseignement, c'est ce qui distingue les anciens des diacres. Les anciens doivent être capables d'enseigner. C'est quelque chose qui n'apparaît pas dans une description des qualités requises pour les diacres. Et ça, c'est le devoir suprême de l'ancien, c'est de pouvoir prêcher et expliquer la parole de Dieu. Alors, deux choses avant de poursuivre notre message aujourd'hui concernant l'application de ces versets qu'on va voir pour nous aujourd'hui. La première chose, c'est que on va pouvoir confronter les anciens et les diacres de notre assemblée à Saint-Maur par rapport à ses qualités. On va pouvoir regarder la liste et dire est-ce qu'il est vraiment comme ça? Et ce n'est pas évident pour eux, donc je vous demanderai de ne pas trop vous tourner vers eux au moment où il y a une qualité qui les concerne ou qui ne les concerne pas. Voilà, essayez d'éviter ça. Parce que ça peut mettre mal à l'aise. Hein. Mais voilà, vous pouvez penser à « Ah oui, effectivement, ok. » Et deuxième chose, rappelez rapidement que ces qualités, c'est des qualités qui sont requises en vue d'être diacre, en vue d'être des anciens. En fait, ces diacres et ces anciens, c'est pas une fois qu'ils sont élus diacres ou qu'ils sont élus anciens qu'ils ont ces qualités. Ils sont appelés à d'abord avoir ces qualités. Et quand on voit dans l'assemblée que ces hommes, c'est les hommes les plus matures, les personnes les plus matures, dans ce cadre-là, ok, on peut les nommer responsables de l'église locale. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore dans le conseil des diacres ou anciens, eh bien, ce passage peut quand même vous concerner. Et comme ça, si l'un d'entre vous, plus tard, va devenir diacre, eh ben, ces qualités seront scrutées avec ce panel de qualités requises. Et ces qualités, elles viennent pas malheureusement du jour au lendemain. Voilà, c'est quelque chose qui vient avec le temps, donc c'est déjà des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc si vous voyez des choses dans ce qu'on va voir, sur lesquelles vous pouvez encore travailler, c'est pas juste pour l'ancien ou pour le diacre qui est en place, mais c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que le passage qu'on va voir, c'est pas évident, parce que quand on le lit, on dit 1 Timothée 3, waouh, ok, ça parle des anciens, ça parle des diacres, mais finalement, bon, je suis pas ancien, je suis pas diacre. Bon, ok, c'est, j'en ressors peut-être intellectuellement, ok, je comprends la différence, mais en fait, ça nous parle tous, en fait. Toutes ces qualités, on est censé les avoir, en fait. Voilà. Donc, ce qu'on apprend sur les anciens. Les anciens, donc c'est verset 1 jusqu'au verset 7. Les anciens, ils sont aussi appelés dirigeants, responsables, évêques ou épiscopes, d'après la traduction exacte en grec. Donc voilà, donc ça dépend des versions que vous avez dans vos Bibles, notamment la seconde 21, c'est responsable, mais voilà, c'est dirigeant, responsable, évêque, épiscope. Et ce qu'on peut aussi apprendre dans ce passage, c'est que les anciens étaient plusieurs, au sein de l'église locale d'Éphèse en tout cas. Donc il semble que c'est plutôt une gouvernance avec plusieurs anciens qui collaboraient ensemble. Et c'était des hommes, il n'y a pas d'équivalent femmes anciens comme les femmes diacres, donc ça c'est ce qu'on remarque aussi. Et les qualités morales qui sont requises pour être ancien, elles sont toutes liées au fait d'être irréprochable. En fait, ça commence par être irréprochable et après, on a toute une liste de qualités requises. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces qualités, en fait, elles sont en opposition avec ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, en fait. Et l'ancien, il est appelé à se démarquer du monde. L'ancien, il est appelé à se démarquer du monde, non pas par ses propres forces, mais grâce au Saint-Esprit qui vit en lui, en fait. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Par nous-mêmes, c'est impossible, mais par le Saint-Esprit, c'est possible. C'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et comme vous le savez, nous recherchons actuellement un pasteur, et je pense que c'est un des sujets de prière que nous avons tous en commun quotidiennement. Et ce pasteur, c'est un don de berger qu'on a vu dans Éphésiens 4, versets 11 à 12. Ça va devenir, s'il vient chez nous, ça va devenir notre ancien en tant que fonction. Et du coup, ça concerne non seulement ces qualités que nous pouvons avoir, mais ça concerne aussi le candidat que nous cherchons en tant que pasteur de notre Église. Donc je nous invite à étudier avec attention les qualités de ces anciens, et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour prier, pour intercéder pour ce futur pasteur que nous croyons que par la foi, nous aurons et qui prendra soin de nous. Donc plutôt que de prendre verset par verset ce que j'ai fait, j'ai essayé de catégoriser en fait dans quelle mesure l'ancien doit être un modèle. Et il y a trois domaines que j'ai observés. Le premier domaine, c'est être un modèle dans son foyer. Le deuxième, c'est être un modèle dans son comportement. Et un troisième, c'est modèle de piété et de maturité. Et enfin, le fait qu'il soit capable d'enseigner. Donc, modèle dans son foyer, il y a trois mots qui viennent. Être fidèle à sa femme, bien diriger sa propre maison et être hospitalier. Fidèle à sa femme, si l'ancien est marié, il faut qu'il soit fidèle au sein même de son couple. Donc il ne faut pas qu'on entende parler d'adultère en ce qui le concerne. Il ne s'agit pas d'un critère qui est lié à l'état civil. C'est pas il faut être marié pour être, mais c'est un critère de pureté à la fois sexuelle et morale. Et on voit que Paul il commence par ce point-là dans sa liste de descriptifs, car c'est dans ce domaine qu'on entend beaucoup de scandales en fait, qu'on voit le plus souvent une situation de péché. Et la famille, l'unité familiale, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la base de tout. Si la famille de l'ancien, du candidat pour être ancien, elle est décomposée, divisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'harmonie, l'ancien ne sera pas qualifié ensuite pour composer une église qui elle-même sera unie. Si moi-même, je n'arrive pas à le faire dans ma famille, comment est-ce que je pourrais le faire dans l'église qui est la famille de Dieu, en fait, qui est la maison de Dieu? Et ce critère de pureté, il est également appliqué aux autres serviteurs que sont les diacres, que ce soit des hommes diacres ou des femmes diacres, ce que vous voyez, fidèle à sa femme ou fidèle en tout. L'ancien est appelé aussi à bien diriger sa propre maison. Et de la même façon que si je ne suis pas capable de diriger ma propre maison, si je ne suis pas capable à ce que mes enfants soient soumis à moi volontairement, comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que les membres de mon assemblée puissent être soumis finalement à mon autorité en tant qu'ancien. C'est impossible en fait. Donc c'est toujours important de déjà commencer à être un modèle dans son foyer, un modèle que ce soit en termes de fidélité, que ce soit en termes de leadership, et pas un leadership qui dit soumets-toi, mais un leadership comme Jésus qui était là pour aimer et pour servir. L'ancien est aussi appelé à être hospitalier, et il ne peut pas être hospitalier tout seul, il va falloir que dans sa famille, toute sa famille finalement soit capable d'accueillir les membres au sein non seulement de l'Église, mais également au sein de leur foyer, de leur oikos. Et en étant ouvert, l'ancien aussi permet de, à ce que les gens voient est un regard finalement sur sa vie spirituelle et familiale en fait. C'est l'ancien, il peut inviter les gens à venir voir comment ça se passe chez lui et il voit que c'est pas juste quelque chose qu'il feint, quelque chose qu'il montre le dimanche, mais qu'il est vraiment comme ça, qu'il vit vraiment cette foi. Donc modèle dans son foyer. L'ancien est appelé aussi à être un modèle dans son comportement. Donc il doit être sobre, tout comme le diacre. L'ancien, il est appelé à savoir se retenir par rapport à tout ce qui est boisson alcoolisée. Et c'est-à-dire que l'ancien ne doit pas avoir de dépendance. Il est appelé aussi à être réfléchi, c'est-à-dire qu'il doit prendre, il doit savoir prendre du recul sur les situations et voir les priorités. Il doit faire preuve de sagesse et de discernement. Et c'est une sagesse qui vient de Dieu. Et je pense à Jacques 1, verset 5, qui dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu qui nous la donne, si nous le demandons avec foi. Et l'ancien est également appelé à être réglé dans sa conduite, c'est-à-dire qu'il doit faire preuve de maîtrise de soi. Il ne doit pas s'emporter dans la colère, ne pas tirer de conclusions hâtives, ne pas porter de paroles blessantes. L'ancien est juste dans ses actions, et s'il n'était pas lui-même, ce serait un problème pour diriger une église. L'ancien ne doit pas être buveur, violent, attiré par le gain. Au contraire, il doit être doux, pacifique et désintéressé. Il doit savoir se contrôler en toutes circonstances. Et ça, encore une fois, ce n'est pas que grâce à ce qu'il fait, mais c'est aussi grâce à ce que le Saint-Esprit produit en lui. Et comment est-ce que le Saint-Esprit peut produire du fruit en nous? C'est à travers cette relation que nous avons avec Dieu, ce moment dans le lieu secret que nous avons tous les jours. Et l'ancien doit savoir aussi pardonner. C'est le côté doux, indulgent, selon les versions. Parce que la motivation pour être ancien, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. C'est parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime les autres, qu'il est OK pour servir, faire partie des responsables de l'Église. Et non pas pour l'amour des choses matérielles comme l'argent. Donc nous avons vu que l'ancien devait être un modèle dans son foyer, un modèle dans son comportement. Nous allons voir dans quelle mesure il doit être un modèle de piété et de maturité. Et c'est là que nous avons deux choses principales, c'est que l'ancien ne doit pas être un nouveau converti et il doit avoir un bon témoignage auprès des non-chrétiens. Pourquoi il ne peut pas être un nouveau converti? Selon l'auteur, selon Paul, un nouveau converti n'a pas encore immédiatement la maturité qui finalement ne peut venir qu'avec le temps. On ne devient pas mature d'un coup, ça demande du temps pour grandir. Et s'il a été nommé trop vite ancien, il risque de s'enorgueillir comme Satan, qui était archange. Et l'orgueil, c'est-à-dire l'absence d'humilité et de maturité, c'est un piège que nous tend le diable. Ce que dit Paul, c'est un piège du diable, parce qu'il lui-même était discrédité à cause de son orgueil. Et si jamais on dit, OK, c'est pas grave, on va prendre quand même cette personne-là, c'est un nouveau converti, il devient ancien. Si jamais nous n'avons pas attendu et observé sa conduite, ses paroles, c'est difficile de se faire une idée claire sur cette personne, en fait. Et moi, je pense notamment à la parabole du semeur, que nous connaissons tous, je pense, la parabole du semeur. Et à travers la parabole du semeur, on peut voir avec le temps si vraiment cette personne est dans la bonne terre et s'il produit du fruit. Et l'ancien doit donc être choisi parmi les hommes spirituellement les plus mûrs de l'assemblée. C'est ce que implique Paul dans ce qu'il dit. L'ancien doit aussi avoir un bon témoignage auprès des non-chrétiens. Et les relations internes sont bien sûr très importantes, mais les relations avec l'extérieur sont également très importantes. Et l'ancien, il aura peu d'impact spirituel sur des gens, donc des non-chrétiens, qui ne le respectent même pas en tant qu'homme, alors encore moins en tant qu'homme spirituel, homme de Dieu finalement. Donc il ne faut pas que le candidat soit calomnié ou accusé de choses graves par le monde extérieur. Et moi ça me fait écho à, parce que la parole de Dieu est vraiment liée à 1 Timothée chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous voyons que Paul demande de prier pour les gens du monde, les gens de l'extérieur, afin de vivre dans la paix et la tranquillité. Et l'ancien doit fortement y contribuer, non seulement à travers la prière, ce qu'on a vu dans 1 Timothée 2, mais également en ayant des liens avec les personnes de l'extérieur. Et c'est intéressant de remarquer que l'ancien, il n'est pas appelé à être juste dans son église, à rester, mais également à avoir des liens avec l'extérieur. Et c'est parce qu'il a des liens avec l'extérieur qui sont bons que l'extérieur un bon témoignage de lui. Et le scandale et le mauvais témoignage sont des pièges que nous tend Satan. Donc dans ces deux qualités requises, caractéristique, ne pas être un nouveau converti, avoir un bon témoignage, il fait référence au piège que peut nous tendre Satan. Et le problème dans le scandale, les mauvais témoignages auprès des responsables d'église, quand on entend un mauvais témoignage d'un responsable d'église, le problème, c'est que non seulement ça touche le responsable d'église, mais que ça touche aussi l'ensemble de son assemblée, en fait. C'est parce que le responsable d'église représente l'assemblée. Et l'église peut devenir, en tout cas, discréditée, et on peut parler mal de cette église juste à cause d'une seule personne. Donc c'est vraiment important de savoir comment est choisie cette personne, quelle qualité elle a avant de vraiment s'engager à la nommer ancien. Et je pense à ces églises de prospérité aux US, mais aussi en France, où malheureusement il y a des scandales, et malheureusement quand il y a des scandales auprès des églises, c'est beaucoup, beaucoup médiatisé. Et récemment, je lisais sur Facebook, on connaît tous Israel Houghton, par exemple, qui est dans l'église de Joel Osteen. Et ben, il y a eu un divorce avec sa femme, et ça faisait suite à un adultère qu'il avait commis dans le passé, dont le couple ne s'est jamais remis. Et ça, forcément, même les journaux non chrétiens, tout le monde a repris en fait ça. Et maintenant, on en entend parler. Donc, ça a affecté forcément son église, et c'est vraiment malheureux en fait. Quatrième chose, l'ancien doit être capable d'enseigner. L'ancien doit savoir enseigner et prêcher. Ses capacités doivent être reconnues non seulement par les autres anciens, mais également par son église locale. Il ne peut pas s'auto-proclamer bon prédicateur. Il faut déjà qu'il soit capable d'enseigner pour ensuite, être nommé ancien. C'est pas « Ah, vas-y, nommez-moi ancien et après je vais me former pour prêcher. » Et l'auteur dit, Paul dit dans le premier verset, que c'est une belle tâche, c'est une noble tâche selon les versions, mais que ça implique des difficultés. Et ça me fait écho, je pense, à Jacques 3, verset 1, qui dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc voilà, on vient de voir les qualités qui étaient requises pour un ancien. C'est un leader qui doit être capable d'enseigner. Et je propose, c'est que vraiment dans notre vie de tous les jours, on puisse non seulement prier pour la recherche de pasteur, mais prier sur la base de 1 Timothée 3, versets 1 à 7, pour guider finalement cette prière, et finalement que nous prions pas avec nos qualités que nous demandons, mais que nous prions avec les qualités que nous donne la parole de Dieu en fait. On va poursuivre avec les diacres, verset 8 au verset 13. Alors, j'ai volontairement passé plus de temps sur la présentation des anciens. Et donc là, je vais faire un rapide survol de qu'est-ce que le ministère des diacres. Alors, les diacres, ils sont appelés ministres. C'est le mot exact en grec qui signifie serviteur, en fait. Et il n'y a pas vraiment de liste de tâches précises dans la Bible de ce que doit faire un diacre. Son rôle consiste à exécuter ce que les anciens lui demandent. Donc, si un ancien lui demande de faire quelque chose, le diacre est un responsable d'église qui reçoit son ordre et du coup qui va exécuter, ou alors à participer selon les besoins au ministère spirituel des anciens. Donc finalement le diacre est là comme un serviteur qui va aider l'ancien, que ce soit pour faire ce qu'il lui demande ou que ce soit pour exercer sous son autorité un ministère. Et par exemple c'est le cas à Saint-Maur. À Saint-Maur on a pasteur Nguyen qui est l'ancien et où le conseil des diacres est à son service et dirige chacun le ministère spirituel que le pasteur à déléguer à chaque diacre. Et le conseil où chaque diacre ne peut pas prendre de position sans avoir d'abord consulté le pasteur ou l'ancien et reçu sa validation formelle. Ainsi, chaque diacre exerce des fonctions spirituelles, que ce soit évangélisation, relation, secrétariat, trésorerie, culte, éducation, intendance. Non, j'ai fait la liste de tous les ministères qu'on a dans l'Église, en tout cas en tant que diacre. Mais chaque diacre a un référent, et ce référent, c'est l'ancien. Il est donc sous la responsabilité de l'ancien. On voit dans ce passage aussi qu'on parle de femmes diacres. Alors, ça dépend. Il y a deux possibilités. Soit ce sont les femmes des diacres, mais si on considère que c'est les femmes des diacres, c'est bizarre qu'on ne parle pas des femmes des anciens. C'est-à-dire que les qualités requises pour une femme de diacre, il n'y aurait pas de qualités du coup requises pour une femme d'ancien. Donc, je suis plutôt dans, on va dire, l'interprétation que ce sont plutôt les femmes diacres. Et ça va dans le sens aussi de Romains 16, verset 1, où Paul, quand il salue l'église de Rome, il parle de Phébi, diaconesse de l'église de Sancré. Donc voilà, il y avait des diaconesses, en tout cas il y en avait au moins une, donc c'est très possible qu'il s'agisse plutôt de femmes diacres. Et dans notre église, nous avons des femmes diacres, donc c'est plutôt cette interprétation qui a été suivie au sein de l'église chrétienne missionnaire de Saint-Maur. Donc les qualités morales qui sont requises pour les diacres, elles sont assez semblables à celles des anciens. Et je ne vais pas trop faire évoquer toute la liste, mais tout de même, on peut remarquer trois choses. C'est que le diacre ne doit pas s'adonner à la boisson et ne pas être attiré par le gain. Et en fait, Paul, il insiste sur le gain, donc sur l'argent, parce qu'en fait, les diacres, à l'époque, s'occupaient généralement des finances de l'Église. Quand on dit service aux tables, c'était entre autres aussi la gestion de l'argent. Donc, ils redistribuaient l'argent qui était récolté aux pauvres, en fait, aux plus indigents. Donc forcément, il ne faut pas être attiré par le gain, parce que sinon, on peut voler dans la bourse, comme l'a fait un certain Judas. Le diacre aussi doit savoir garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut remarquer. Ça ne veut pas dire garder pour soi la foi et garder pour nous-mêmes. Et ça serait contredire un peu le reste de la Bible. Mais ça veut dire qu'ils doivent conserver cette chose qui a été révélée, en fait, à travers Jésus-Christ. Et Paul dit que... en fait, Paul parle plusieurs fois dans Éphésiens, dans 1 Timothée, dans d'autres passages, il parle de mystère. Et à chaque fois qu'il parle de mystère, Paul, en fait, il fait référence à quelque chose qui était auparavant caché, mais maintenant il est révélé à travers Christ, en fait. Et ici, le mystère, c'est sa deuxième partie, donc je vais en parler après. Voilà. Et enfin, le diacre est appelé à être mis à l'épreuve avant l'exercice de son ministère, pour vérifier qu'il soit irréprochable. Et le temps utilisé en grec, c'est le présent. Ça suppose que le diacre, il est censé être constamment soumis à un contrôle continu. On ne fait pas confiance une fois et ça y est, c'est fini. Il est toujours soumis à un contrôle continu. Alors, pour quelles raisons ? Alors, je pense personnellement que c'est un lien avec le fait de gérer l'argent. Et voilà, plus on gère de l'argent, parce qu'à l'époque, les diacres géraient l'argent de l'Église. Et ça peut parfois être source de tentation. Et ça fait écho, je pense, à ce qu'on vient de dire avant, qui ne doit pas être attiré par les gains. Donc, je pense que ça va dans ce sens. Les femmes diacres, elles ne sont pas non plus... Il y a aussi des qualités morales qui sont requises. Et j'en ai noté deux particulières, c'est qu'elles ne doivent pas être médisantes. Et ça, je pense, ça fait partie à une situation dans l'église d'Éphèse où les femmes étaient appelées spécifiquement à s'instruire et à ne pas prendre autorité. Et donc, je pense que la médisance qui est ici évoquée faisait écho à ce qui était dans le chapitre 2. Elles doivent donc éviter tout ce qui est ragot, raconter des choses les uns sur les autres et critiquer gratuitement. Et les femmes diacres doivent être fidèles en tout. Et tout comme les hommes diacres, les femmes diacres sont appelées aussi à être dignes de confiance sur le plan personnel et au sein de leur ministère. Donc voilà, ça c'était pour... on a vu à quel point Dieu, à travers Paul, demander des qualités morales à la fois pour les anciens et pour les diacres. Et maintenant, nous allons voir le mystère de la piété qui a amené l'ordre, parce que cet ordre, dont les responsables sont censés apporter cet ordre, il a été établi grâce à une chose et une seule, c'est grâce à l'incarnation de Christ. Paul, verset 14 au verset 16. Paul, verset 14 au verset 16. Il dit qu'il pense bientôt rejoindre Timothée. Donc il écrit cette lettre et verset 14, 15, il dit « Ah, je t'écris cette lettre, mais j'espère bientôt te rejoindre, mais en attendant, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Et déjà, ça montre que c'est une lettre très personnelle. Il s'adresse pas à une église, il dit « Ah, là comme ça, tu sauras comment il faut gérer l'église. » Ainsi, même si Paul ne revoit pas Timothée, il lui laisse ses instructions afin qu'il puisse les mettre en pratique. Et ces versets, ils marquent vraiment une transition. Si vous regardez l'ensemble de la lettre de Paul, vous avez six chapitres. Chapitre 1 au chapitre 3, c'est une première partie avec des encouragements. Je nous encourage à prier pour les hommes de tous horizons, à prier pour les autorités. Je nous encourage à vraiment garder cette foi, combattre le bon combat. Ensuite, on a ces versets 14 au verset 16. Et ensuite, on a chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, la deuxième partie qui est plutôt constituée d'avertissements. Attention au fait que vous êtes riche. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes serviteur d'un maître, c'est-à-dire un employé finalement aujourd'hui par rapport à notre supérieur, et que votre supérieur il est chrétien, que du coup vous devez en profiter. Voilà, c'est plutôt des avertissements. Et ce verset 15, il montre le but central de la lettre, c'est ramener l'ordre dans l'Église. Parce que Paul dit, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il dit ça juste après avoir évoqué la situation de l'Église, et notamment le fait qu'ils ont besoin de diacres et d'anciens qui aient des qualités morales. Et toujours ce verset 15, il montre que ces instructions, elles s'appliquent à toute la famille de Dieu. Et l'Église, elle est constituée de membres. Ce n'est pas juste un bâtiment. L'Église avec un grand E, ce n'est pas juste l'Église d'Éphèse, finalement. En effet, il n'y a pas que l'Église d'Éphèse qui soit la maison des enfants de Dieu. Je pense que chaque Église est la maison des enfants de Dieu. Et c'est aussi conforté dans un passage qui est assez semblable dans Tite 1, versets 5 à 9, où Paul dit d'établir des anciens dans chaque ville. À Saint-Maur, je pense que nous pouvons considérer que l'église de Saint-Maur, c'est la maison des enfants de Dieu. Et que tout ce qui est dit dans cette épître de Paul à Timothée peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Cependant, petite mise en garde, vous savez qu'un texte sorti hors de son contexte peut devenir un prétexte. Donc bien sûr, tout ce qui est dit dans l'épître de Timothée, il faut d'abord le comprendre, voir qu'est-ce qu'il voulait dire dans son contexte et voir comment est-ce que ensuite il peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Et le verset 16, c'est en fait, Paul il est en train de citer un cantique qui était déjà en place dans l'église primitive, donc dans les premières églises du 1er siècle. Et il rend hommage à l'incarnation de Christ, à l'incarnation du Fils en homme. Il rend entièrement gloire à Jésus et à son incarnation sur terre, et c'est-à-dire que c'est Dieu qui est apparu en tant qu'homme. Christ était juste, parce que le Saint-Esprit était en lui, en fait. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et la bonne nouvelle du salut en Jésus a été proclamée parmi les nations, et parmi les nations, c'est-à-dire aussi les non-juifs. Parce que les juifs, à l'époque, pensaient que c'était que pour eux. Et en fait, le salut, le mystère de la piété, finalement, c'est que dans Éphésiens, on voit que ce salut est destiné aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Et cela a suscité la foi en lui dans le monde. Et enfin, l'hymne dit que Christ est élevé et glorifié, et ça fait suite à l'ascension de Christ. Il siège aujourd'hui à la droite du Père. Et une dernière chose que j'aimerais remarquer par rapport à ce passage, c'est que l'Église, c'est le pilier et le soutien de la vérité. L'Église est le pilier et le soutien de la vérité. Et le mot pilier, il peut aussi signifier fondation. Et en fait, à Éphèse, il y avait un temple, s'appelait le temple d'Artémis, qui était soutenu par 127 piliers de marbre recouverts d'or. Il est fort probable que, en fait, Paul a utilisé cette image pour dire, ok, vous, enfin, à Éphèse, vous avez le temple d'Artémis, vous êtes soutenu par 127 piliers, ok, ils sont faits d'un marbre, c'est de l'or, c'est très beau, mais l'Église, elle est le pilier de la vérité de la parole de Dieu. L'Église, elle est stable, pas parce qu'elle est stable elle-même, parce que l'Église est stable, parce qu'elle est établie sur la vraie pierre angulaire, la vraie pierre qui va être stable, c'est Christ. Et ça, je pense que c'est juste une vérité stupéfiante. Quand j'ai relu ce passage, quand on est orateur, on a ce privilège de lire au moins 10 fois le passage avant de faire notre message, au moins, et au fur et à mesure qu'on lit, on découvre des choses, on lit des commentaires, et franchement, c'était une vérité stupéfiante, c'est à la fois magnifique et également chargé de responsabilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Église, elle est le pilier pour l'annonce de la vérité, pour l'annonce de l'Évangile. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est l'Église qui est ce pilier. Et du coup, je nous invite à nous poser des questions. Est-ce que l'Église de Saint-Maur, est-ce qu'elle repose sur la pierre angulaire qui est Christ, ou est-ce qu'elle repose sur les hommes? Est-ce que l'Église repose sur Christ, ou est-ce qu'elle repose sur les hommes? Est-ce que l'Église de Saint-Maur, est-ce qu'elle est un pilier pour l'annonce de l'Évangile? Est-ce qu'elle est une fondation stable pour l'annonce de l'Évangile, ou est-ce qu'elle est endormie ou tiède? Et si peut-être elle vous semble, de votre point de vue, endormie ou tiède, bah, plutôt que de commencer à critiquer les responsables, on peut le faire, mais pas seulement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se lever pour réveiller les autres membres de l'Église et qu'ils soient brûlants pour l'annonce de l'Évangile. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous revient à tous, en fait. Et je pense que ça fait aussi écho à Romains 10, versets 13 à 15. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Il nous faut conclure. Paul a écrit cette section, ce passage, sur les anciens et les diacres, et parce qu'il voulait encourager Timothée à bien choisir ses responsables d'église. Et ces qualités morales qui étaient demandées aux anciens et aux diacres, ça ressemble, elles se ressemblent beaucoup, mais on a vu que la différence, elle se faisait sur le fait d'enseigner, être capable d'enseigner. Ça ne veut pas forcément dire que tous les anciens doivent prêcher. On verra plus tard dans 1 Timothée 5, 17, que Paul fait bien une distinction entre les anciens qui enseignent ou prêchent et les autres anciens. Et dans la fin de ce chapitre 3, nous comprenons totalement pourquoi Paul a encouragé Timothée à bien choisir ses responsables d'église. C'était dans le but de ramener l'ordre dans l'église locale. Et cette église, elle est tellement précieuse à Dieu que Dieu se l'est rachetée par son sang, par le sang par exemple, de son propre fils, Jésus-Christ. Et Paul rend à Jésus-Christ justement un vibrant hommage avec cet hymne, un cantique qui était déjà connu, l'incarnation de Christ. Alors, nous ne sommes peut-être pas tous des Timothées, et peut-être nous ne participons pas tous, nous ne sommes pas tous des Timothées, mais je pense que nous participons tous quelque part au service dans l'Église. Et même si nous n'aspirons pas à être diacre ou ancien, comme j'ai déjà dit, ces qualités morales, ça devrait être des objectifs qu'on devrait se fixer pour chacun d'entre nous, parce que ce sont des qualités, je pense, qui sont exigées pour notre vie de chrétien. Et c'est parce que les responsables d'église ont de base ces qualités qu'ils sont ensuite choisis pour être anciens ou diacres et pas le contraire. Ce n'est pas une fois devenu diacre ou ancien qu'on est censé acquérir ces qualités. Cherchons donc à être irréprochables dans les petites choses. Et qui sait, peut-être que Dieu va nous utiliser pour des choses encore plus grandes. Je vous invite à prier. C'est entre Dieu, nous te remercions parce que à travers ta parole, Seigneur, tu nous as montré à quel point tu voulais l'ordre dans l'église locale, Seigneur, et que cet ordre était garanti à travers des responsables, des serviteurs de ta parole. Et que, Seigneur, tu avais besoin de responsables d'église irréprochables. Irréprochables parce qu'ils devaient encourager, ils doivent encore encourager l'église, édifier l'église, enseigner l'église, Seigneur. Et cette église, elle est appelée à diffuser, à être un pilier, à être des fondations pour l'annonce de l'évangile. Et Seigneur, je te prie pour que toutes ces choses ne soient pas juste de la théorie, mais que ce soit aussi de la pratique, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on a tout compris, Seigneur, qu'on va agir derrière, mais je te prie pour que ton Saint-Esprit puisse nous guider, Seigneur, nous donner cette envie de pouvoir persévérer dans notre combat de la foi, ce combat de la piété, de l'attachement à toi, Seigneur. Seigneur, guide-nous chaque jour encore et apprends-nous à prier pour ce pasteur que nous cherchons avec ses qualités que nous venons d'énoncer. Et apprends-nous également à prier pour si jamais il y a une chose qu'on a vue, une qualité que nous n'avons pas encore, que nous devons développer, aide-nous, je t'en supplie, par ton Saint-Esprit, à mettre le doigt dessus et ensuite à travailler dessus, non par nos propres forces, mais par celles que nous donne le Saint-Esprit. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.